Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Anatomie d'une chute de Justine Triet. Anatomie d'une chute est l'histoire d'une cécité et d'une surdité collective. D'un film rangé immédiatement au rang de chef-d'œuvre pour faire taire sa parole politique sur les relations hommes-femmes ainsi que sur la culpabilité intrinsèque aux femmes, misogynie transparente, incorporée par chacun et chacune d'entre nous et qui nous empêche de voir, de croire et d'entendre. Pourtant, Justine Triet parle à voix haute lors des Césars 2024, quand elle remercie Sophie Filière, réalisatrice invisibilisée bien avant sa mort. Je voudrais d'abord remercier mes actrices adorées, et après la liste du don de ce que ces femmes lui ont donné, elle ajoute être la deuxième femme de l'histoire à obtenir ce prix en 49 ans. C'est pas rien, c'est un peu flippant et génial à la fois. Ça donne de l'espoir pour la suite. J'aimerais rajouter en fait ce soir une femme qui aurait pu l'avoir. Une femme que j'aimais énormément et qui est morte l'été dernier. C'était quelqu'un de très important pour moi. C'était quelqu'un qui était jamais dans la séduction. Et les gens qui ne cherchent pas à être dans la séduction ont un pouvoir fou car ils ont un accès direct à l'essentiel, à ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc je pense à Sophie Filière. Justine Triet fait non seulement un geste de sororité envers une amie et une alliée qui, comme Olympe de Gouges, a refusé de se placer dans la séduction, le seul espace d'expression offert aux femmes, espace d'hypocrisie et de mensonge, espace de domination par l'illusion, comme le rappelle la marquise de Merteuil dans la lettre 81 des Liaisons dangereuses. Justine Triet inscrit son amie réalisatrice et elle s'inscrit dans l'intellectualisme comme un humanisme, accès direct à l'essentiel. En ce qui concerne les choses humaines, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas s'indigner, mais comprendre. Spinoza. Pourtant, Justine Triet parle clairement quand elle dédie ce César à toutes les femmes, à celles qui réussissent et celles qui ratent, celles qu'on a blessées et qui se libèrent en parlant et celles qui n'y arrivent pas. Être la deuxième femme de l'histoire, c'est penser à celles qui ratent et n'y arrivent pas, les plus nombreuses. C'est aussi tenter de faire entendre sa voix. Mais parler ne suffit pas pour être entendu. Pourtant, Sandra Hüller parle quand elle reçoit le César de la meilleure actrice. « Oh, mais c'est pas normal, je suis allemande !» Et quelques mots plus loin. Déjà, sur le plateau de tournage, la langue d'origine n'était jamais un obstacle, mais toujours une possibilité. Ça me rend heureuse. Et je demande, et je souhaite que ça soit toujours comme ça, partout. La langue, donc, comme un principe d'égalité et de coopération, même sur un tournage. Sandra Hüller clôt son discours par ces mots. Et ce prix est pour ma fille, et j'espère qu'elle ne doit jamais vivre dans une relation comme celle de Sandra. Et si la chute de Samuel était une tentative de féminicide, d'un homme qui fait confiance à la loi des hommes qui vont juger Sandra coupable et rechercher sa culpabilité? Le féminicide n'est pas une anomalie. Il est le symbole d'un système de domination très ancien, qui repose sur la banalité, mais aussi l'impunité, des violences faites aux femmes et des crimes de haine à caractère sexiste perpétrés contre elles. Ainsi, comme le souligne la poétesse et anthropologue nigériane Ifi Amadioum, la tolérance au sexisme et au comportement machiste, y compris par les femmes elles-mêmes, est sans commune mesure avec d'autres formes de discrimination. Ces discriminations genrées ne recouvrent pas uniquement les préjugés sur les femmes et les conditions socio-économiques inégalitaires qu'elles subissent. Ce que l'on constate presque partout, et à toutes les époques, mais forme un système de violence si ancré, si incorporé, si intégré, aussi bien individuellement que collectivement, qu'il finit par être transparent, impensé, tabou. Ce système, c'est le patriarcat, associé au capitalisme et au néocolonialisme, avec lesquels il fait corps, il trouve sa plus parfaite expression dans le crime de féminicide, qui s'assure, par la spectacularisation dont il s'accompagne souvent, de remettre les femmes à leur juste place. Celle de corps exploitable, au mieux, sacrifiable, au pire. Comme le démontrent les chercheuses féministes Julia Monares Fragoso et Melissa W. Wright. Une histoire mondiale. Des féminicides, pourquoi faire ? Par Christelle Tarot. En introduction à Féminicide, une histoire mondiale, dirigée par Christelle Tarot. Aux éditions La Découverte. Sandra, au prix du deuil d'une relation qu'elle avait crue amoureuse et intellectuelle, réussira à faire entendre sa voix dans le film. Pourtant, c'est comme si les discours de Justine Triet et de Sandra Hüller n'avaient pas été entendus. C'est comme si le film n'avait pas été vu. Je pense souvent à ce passage d'une nouvelle de Colette intitulée « Les vrilles de la vigne ». Toute seule, éveillée dans la nuit, je regarde à présent monter devant moi l'astre voluptueux et morose. Pour me défendre de retomber dans l'heureux sommeil, dans le printemps où fleurit la vigne crochue, j'écoute le son de ma voix. Parfois, je crie fiévreusement ce qu'on a coutume de taire, ce qui se chuchote très bas. Puis ma voix languit jusqu'au murmure parce que je n'ose poursuivre. Je voudrais dire, dire, dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Mais il y a toujours, vers l'aube de cette nuit sonore, une sage main fraîche qui se pose sur ma bouche. Et mon cri qui s'exaltait redescend au verbiage modéré, à la volubilité de l'enfant qui parle haut, pour se rassurer et s'étourdir. Dans le cas d'anatomie d'une chute, pas de sage-main fraîche, mais le déni collectif. Il y a quelques semaines, dans le cadre de lycéens au cinéma, j'ai amené mes élèves voir « La nuit du chasseur ». C'est un film sur la prédation des femmes et des enfants et sur l'aveuglement d'une société, femmes comprises, qui ne veut pas voir. De même, le film est aujourd'hui porté au nu comme un chef-d'œuvre esthétique absolu et, en même temps, désincarné de sa portée politique. Une société qui poursuit, traque et tue ses enfants. Ce système de prédation et d'exclusion des femmes et des enfants de la parole, les enfants ne sauraient mieux porter leur nom, ne pas parler, est si transparent que même lorsqu'il est raconté à voix haute, intelligente et intelligible, nous répondons collectivement par le déni. Cette femme est-elle coupable ? Semble être la question rhétorique que pose le film. Oui, forcément coupable. Et nous faisons comme si c'était la question posée. Question dont nous détenons la réponse avant d'avoir vu et entendu. Elle est forcément coupable, comme l'avait écrit Marguerite Duras. L'imaginaire collectif enferme les femmes et les enfants dans une culpabilité intrinsèque à leur essence immature et sournoise. Ces mots et ce prix est pour ma fille et j'espère qu'elle ne doit jamais vivre dans une relation comme celle de Sandra. Mais de quoi parle-t-elle que nous n'aurions pas vu et entendu ? Le film démarre sur une scène de relation toxique. L'homme est invisible et pourtant il occupe tout l'espace, notamment en imposant une musique à tue-tête, alors que Sandra, autrice reconnue, tente de recevoir une étudiante qui veut l'interviewer. C'est impossible.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sortie de la maison, c'est ça ?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
Il y a quelques semaines, un procès contre une femme battue a eu lieu. Elle a réussi à faire entendre sa voix, malgré un système qui pense avec décontraction la culpabilité des femmes. Voici la lecture du début de l'article de Sarah Brett sur Mediapart en date du 27 février 2024. Le Goncourt de poésie Jean-Michel Maulpois condamné pour avoir frappé sa femme. Le 13 février dernier, le poète et critique Jean-Michel Maulpois comparaissait à Strasbourg aux côtés de son épouse pour violence réciproque sur conjoint. Contre l'avis du procureur, elle a été relaxée et lui condamnée à 18 mois de prison avec sursis. Il n'y aura pas de procès en appel. J'ai traité des centaines de dossiers de violence conjugale, mais les photos qu'on voit dans le dossier, là, pour moi, c'est la première fois. Au tribunal judiciaire de Strasbourg, mardi 13 février, le procureur s'est ému des nombreux clichés pris entre 2017 et 2022 par Laure Helms, avec son téléphone, un œil au beurre noir, des hématomes sur ses épaules, ses bras, ses cuisses, ses fesses, son thorax. Ce sont des traces de coups de poing, conclura le magistrat. Les photos prises par la femme de ce poète, qui a obtenu le prix Goncourt en 2022 pour l'ensemble de son œuvre, montrent aussi des touffes de cheveux arrachés, un lobe meurtri par une boucle d'oreille violemment tirée, des vêtements déchirés. Pourtant, à l'issue de l'audience où il a requis 18 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'indemnisation pour le préjudice infligé à son épouse par Jean-Michel Maulpois, 71 ans, le procureur a aussi demandé 6 mois avec sursis contre Laure Helms, 46 ans, professeur de littérature en classe préparatoire. C'est lamentable. Difficile de comprendre qu'un couple avec un tel statut social se livre à de telles abjections, a-t-il estimé. Car le poète et critique parmi les plus respectés du milieu littéraire français avait, lui aussi, fourni à la police des photos attestant de griffures au bras, au visage et d'un bleu sous l'aisselle et affirmé être également victime d'agressions physiques et d'humiliations de la part de son épouse qu'il estime être à l'origine des violences qu'il lui a infligées. Au terme des 3 heures d'audience dessinant une vie de couple faite de crachats au visage, de hurlements, d'insultes, de coups et de menaces, l'interprétation du parquet a été balayée par le tribunal. Les juges ont en effet estimé que Laure Helms était l'unique victime et que son mari n'avait subi que des blessures de défense. Selon nos informations, au terme du délai de 10 jours prévu par la loi, ni le parquet ni Jean-Michel Maulpois n'ont fait appel de la décision du tribunal qui est donc désormais définitive. Il est vrai que certaines de ces déclarations ont accablé le septuagénaire. Je faisais toujours attention autant que je le pouvais à ne pas mettre ma femme en danger, a-t-il ainsi osé à la barre, en reconnaissant les coups donnés à son épouse. Attention aux mots que vous employez, monsieur, a bondi la présidente du tribunal, insistant à la fin du procès sur la gravité particulière des faits qui lui étaient reprochés. L'article continue sur le même ton. On pense évidemment aux mots de Sandra Hüller. J'espère, pour ma fille, qu'elle ne doit jamais vivre dans une relation comme celle de Sandra. Anatomie d'une chute est la fiction de toutes ces relations toxiques, romantisées, mais destructrices, des relations d'emprise qui n'ont rien à voir avec l'amour et la solidarité. Justine Triet prouve que parler à voix haute, créer, dire la prédation peut se faire dans la coopération, comme l'écrit Simone Veil, dans Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Les rapports sociaux seraient directement modelés sur l'organisation du travail, les hommes se grouperaient en petites collectivités travailleuses, où la coopération serait la loi suprême et où chacun pourrait clairement comprendre et contrôler le rapport des règles auxquelles sa vie serait soumise avec l'intérêt général. Au reste, chaque moment de l'existence apporterait à chacun l'occasion de comprendre et d'éprouver combien tous les hommes sont profondément un, puisqu'ils ont tous à mettre aux prises une même raison avec des obstacles analogues. Et tous les rapports humains, depuis les plus superficiels jusqu'aux plus tendres, auraient quelque chose de cette fraternité virile qui unit les compagnons de travail. Sans doute, c'est là une pure utopie. Mais décrire même sommairement un état de choses qui serait meilleur que ce qui est, c'est toujours bâtir une utopie. Pourtant, rien n'est plus nécessaire à la vie que des descriptions semblables, pourvu qu'elles soient toujours dictées par la raison. Anatomie d'une chute est diffusée cette semaine au cinéma Le Kid. C'était ma rencontre avec Anatomie d'une chute de Justine Triet.